carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lucien Clerc doit sa première célébrité à ses photos de nu, dont les jeux sensuels de lumière et de volume avec l'environnement marin ont séduit Picasso et Cocteau, qui ont été d'ailleurs ses ambassadeurs de manière indéfectible jusqu'à leur mort. Lucien Clerc, bonjour.
Bonjour.
J'ajoute que vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts. Vous êtes habitué de Canal Académie, alors j'avais même omis de le dire. Bref, aujourd'hui nous sommes ensemble pour évoquer un magnifique livre, Lucien Clerc, Brasilia, avec une préface de Paul Andreu, des textes de vous et d'Eva Monica Turc. Un livre qui vient donc de sortir et qui est sorti après la mort d'Oscar Niemeyer, à qui l'on doit de grandes constructions architecturales dans le monde, mais à qui l'on doit en particulier de très nombreux bâtiments à Brasilia, qu'il a construit en collaboration avec l'urbaniste Lucio Costa. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander, Lucien Clerc, vous avez 26 ans quand Brasilia est construite et inaugurée, et cette modernité comme ça, sortie ex nihilo, a eu un véritable retentissement médiatique. Quel souvenir avez-vous de l'événement, tout simplement?
D'abord, il y avait le précédent créé par André Malraux, qui était allé à Brasilia et qui, en revenant, avait fait un article retentissant dans une revue, je crois que c'était Art, intitulé « Les ruines immédiates ». Alors, c'était troublant, quand même. C'est quelque chose qu'on était en train de construire, c'était pas fini. Et il disait déjà les ruines immédiates. Mais bon, je connaissais un éditeur, Jean Petit, qui avait déjà fait deux livres de moi, « Naissance d'Aphrodite » avec des poèmes de Garcia Lorca. J'avais insisté pour qu'on mette ces poèmes parce que c'était l'époque de l'éclosion des sex shops et je ne voulais pas que ce livre aille dans les sex shops. Il y est malheureusement allé plus tard, mais bon, en mettant des poèmes de Lorca, ça découragera les amateurs. Et un autre livre qui s'appelle « Toros Muertos », qui est devenu une espèce de livre culte parce que personne n'avait fait quelque chose comme ça et personne ne l'a fait depuis. Et donc, cet homme était obsédé par les architectes, notamment Le Corbusier, le côté carré, et ses livres étaient carrés. Et les deux livres qu'il a publiés de moi étaient carrés. Et il me dit, voilà, nous avons un projet, une demande, Oscar Niemeyer serait ravi qu'on fasse son livre sur Brasilia, donc c'est toi qui seras le photographe, je t'emmène. Donc nous sommes allés à Brasilia, malheureusement dans la saison des pluies, et donc on a dû retourner en France sans avoir pu faire de photos, il pleuvait tous les jours. Oscar n'était pas de Brasilia, c'est un carioca, il est de Rio de Janeiro. Et donc on est allé voir un de ses copains qui lui était de là, du coin et qui nous a dit, en regardant le calendrier, ben oui, il y en a pas encore 4 mois. Donc on est revenu 4 ou 5 mois plus tard. Et là, on a fait ces photos. Puis on est parti avec une valise de cruzeiro qui valait rien, il fallait changer en dollars, on fait une histoire de fou. Finalement, quand on est arrivé en France et qu'on était à peu près prêt à faire le livre, catastrophe, le coup d'État, Oscar obligé de s'exiler, Kubitschek aussi. Enfin, ça a été un grand mouvement politique fort désagréable. Et Oscar est venu en France. Et à partir de là, les choses se sont diluées. Et je n'ai absolument rien compris pourquoi le livre, au fond, n'était pas paru alors qu'Oscar était en France. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Jean Petit meurt. Il m'avait pris une certaine partie des négatifs. Et j'ai pu retrouver des doubles et des triples. Et une dame, Madame Turc, qui est de Munich, a été séduite quand elle a vu chez moi ces photos. Et elle m'a dit, mais moi j'ai un éditeur, on va faire le livre. Donc c'est elle qui a eu l'idée de faire ce livre. Et moi j'y croyais pas trop, parce que je me disais, 50 ans après, bon c'est fini, Brasilia a changé d'aspect probablement. Eh ben non, ça a séduit les éditeurs allemands, qui ont cédé ensuite les droits pour la France aux éditions Hazan. Et le livre est là. Je dois dire que je ne me suis pas du tout occupé de la mise en page, exceptionnellement. Ils ont fait un travail magnifique. Moi, je suis tout à fait séduit par ce qu'ils ont fait. Et Madame Turc a écrit un texte extrêmement intéressant là-dessus.
Qui fait d'ailleurs, je me permets d'intervenir, vraiment le point aussi sur l'ensemble de votre œuvre. C'est une mise en perspective complète de ce travail photographique consacré à l'architecture, qu'on connaît moins chez vous, qui est vraiment très intéressant.
Eva-Monica Turc avait déjà écrit un texte sur moi pour les éditions Prestel, dans un livre qui s'intitulait « Poésie photographique » qui est épuisé depuis, où elle avait donc parlé en effet déjà de l'ensemble de mon travail. Mais ce travail-là d'architecture était strictement inconnu. C'est assez curieux parce que j'ai eu des liens avec des architectes, notamment avec Marcel Breuer, que j'ai bien connu à New York, chez lui, qui est même venu à Arles avec McLuhan. Je lui ai fait visiter Arles en long en large. J'ai vécu dans une maison qu'il a construite près de Zurich, à Feldmeilen. J'ai connu Botta, j'ai connu Parra. Bref, j'ai frayé avec les architectes parce que c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et je suis... Je ne dirais pas que je suis jaloux, mais j'envie vraiment les architectes.
Qu'est-ce que vous enviez dans leur
travail? Ils font travail, la maison de l'homme, tout bêtement. Écoutez, là où l'homme doit aller. Or, il faut adapter une construction qui lui corresponde. Et c'est quand même magnifique, quoi. Je trouve ça formidable. Alors, c'est un peu comme un chef d'orchestre, quoi. C'est les deux professions que j'aurais aimé faire si je n'avais pas été finalement orienté vers la photographie.
Il y a dans l'ouvrage, d'ailleurs, ça commence par une préface de Paul Andreu, qui est votre confrère à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est une préface très courte, très très belle, un peu aussi dans son style architectural, hein. C'est vraiment, ça va à l'essentiel, très épuré. Et je veux juste dire les deux mots de la fin.
Oui.
Parce qu'ils sont très très beaux.
Je suis allé en Chine d'ailleurs avec l'Académie, nous avons fait un voyage et j'avais insisté pour qu'on mette au programme la visite de l'Opéra de Pékin et on n'a pu le voir que de l'extérieur, pas moyen d'entrer.
Ouais. Je lis juste les dernières lignes. Il raconte qu'il a été à Brasilia. Il n'y avait plus rien à voir et j'en avais vu assez. Je suis monté sur la colline, dans les jardins. Quelques-uns des rares habitants avec qui je partageais la ville en ce dimanche soir faisaient voler en rond, attachés à des fils, des modèles réduits d'avions. Je les ai regardés un long moment. Le soir est tombé d'un seul coup dans leur minuscule vacarme. Plus de 30 ans après, j'ai fait dire à Niemeyer que je le remerciais. Paul Andreu est aussi un écrivain, mais ça signe vraiment... l'émotion de l'architecte par rapport à une autre émotion architecturale qui prend le temps et la mesure, là, grand coup d'écriture en béton. Vraiment, oui. C'est assez
impressionnant. J'ai été très touché par ce texte. Je vais vous dire, je pratique les échanges au sein de l'Académie et je propose à nos artistes de faire un échange. J'ai fait avec Claude Parent, il m'a offert un nu évidemment en pente, comme tout ce qu'il fait. Et moi, je lui ai offert un nu zébré également en pente. Et avec d'autres, il y a des projets d'échange. Et mon échange, c'est avec Paul Andreu, ce texte, et je dois lui offrir une photographie, mais il faut que je lui demande ce qu'il veut exactement.
Revenons à ce rapport que vous avez aussi avec l'architecture. J'ai une question. Qu'est-ce que ça réclame de photographier l'architecture pour un photographe? Est-ce que ça réclame quelque chose de particulier ou pas?
Alors d'abord, il faut me situer.
Oui.
Je suis d'Arles, qui est une ville romaine et romane. Puisque les principaux monuments sont effectivement romains, les arènes, et c'est pas rien.
Donc vous avez l'architecture dans l'œil, j'allais dire.
Mais c'est une architecture fonctionnelle en plus aujourd'hui. Il se déroule les corridas, sa vie. Et ça a même vécu une autre vie au Moyen-Âge quand c'était une ville en soi, puisqu'il y avait deux églises à l'intérieur des arènes, il y avait des habitants, etc. Bon. Et il y a le théâtre, qui est également de cette antiquité, avec ces deux fameuses colonnes perdues dans le ciel. Il y a le cimetière des Aliscans, qui est très célèbre. Et il ne faut pas oublier, vous savez, on oublie souvent que Arles est une ville très ancienne, puisqu'elle démarre il y a 4600 ans. Nous avons des cavernes tout près de l'abbaye du Montmajour qui sont très impressionnantes. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a la romanité, c'est l'église de Saint-Trophime du XIIe siècle, qui est un livre ouvert. Moi, L'avantage d'Arles, c'est que quand vous allez déposer votre lettre à la poste, vous choisissez votre parcours. Donc, je peux passer par les Arènes, je peux passer par Saint-Trophime, et je ne manque pas de m'attarder, parce que quand on passe devant les Arènes, il y a un coup de soleil sur une arche qui change, qui est pas... Surtout là, on vient d'achever la restauration, faite d'ailleurs par un nouvel académicien, M. Perrault, qui a dirigé tout ce chantier qui a duré des années. Et Saint-Trophime, alors, c'est un livre ouvert, c'est absolument admirable, on y voit des choses. Moi, j'explique des choses à des cinéastes qui ne soupçonnent pas, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je suis sensible au grain de la pierre. Et ce grain de la pierre, madame, ça me rapproche du grain de la peau, hein, des femmes, des seins notamment, que j'ai tellement photographiés. Et je dois dire que ces photos de nus ont beaucoup troublé Oscar Niemeyer, auquel j'en ai offert. Donc, photographier l'architecture. Il est évident que les arènes d'Arles sont au cœur de mon travail. Pour une raison encore plus subtile que vous ne pouvez imaginer, car j'habitais tout près des arènes. Lorsque nous avions, je ne sais pas, entre 7 et 10 ans, on s'amusait dans les arènes, on resquillait, comme on dit, c'est-à-dire qu'on passait à travers les grilles, on était minces comme des fils. Et au premier étage des arènes, il y a une espèce de coursive interrompue, qui repart, etc. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucune protection. Et un jour, en jouant là, une de nos petites camarades, qui devait avoir 6-7 ans, est tombée et s'est tuée nette. Donc la mort a tout de suite marqué ma passion, ma présence dans ces arènes. Inutile de vous dire que nos parents nous ont interdit d'aller aux arènes après, etc. Bon. Donc la mort est là. Et la mort est très présente à Arles, il faut comprendre ça. Le cimetière des Aliscans, qui est le premier grand cimetière chrétien de l'Occident, il n'y a pas de représentation de la mort. Mais cette tombe, et cette tombe qui serait partout, puisque M. de Lamartine, pour faire faciliter son élection, avait fait construire, à établir le chemin de fer. Et on dirait que le Roland de Roncevaux, d'un grand coup d'épée, comme ça, a coupé en deux la roche. Et on voit les tombes qui sont ouvertes. On a l'impression que c'est les morts qui crient, quoi, qui hurlent. Ces tombes sont ouvertes, là, en plein ciel, tranchées par les machines pour faire pouvoir passer les trains. Donc tout ça, ça m'a beaucoup animé. Et j'ai fait beaucoup de photographies des arènes, évidemment, ces arches, ces lumières, c'est magnifique. Saint-Trophime, quand il y a eu des travaux, j'ai pu m'approcher de certaines sculptures. Donc ça me passionnait. Et quand je me suis trouvé à Brasilia, c'était le béton.
Oui, alors là, on est dans un registre. Très différent.
Très différent, mais il y a aussi cette sensibilité.
Voilà.
Ce même goût qui nous rapproche, Oscar et moi, de la femme, hein, puisque on sait sa passion pour la femme, celle n'est pas cachée. Et je pense que c'est tout à notre honneur et que les femmes en sont heureuses, qu'on les célèbre de cette façon. Et d'ailleurs, c'est assez curieux. La même année, j'ai fait avec ce même éditeur, Brasilia, puis Chandigarh, Ahmedabad, toute l'Inde de Le Corbusier. Alors, quand le livre est sorti, là, que je l'ai eu en main, je me suis dit, tiens, au fond, on pourrait faire la même chose avec Le Corbusier. Alors, je suis reparti sur mes photos de Le Corbusier. C'est pas pareil.
Alors,
c'est pas du tout comme Oscar.
D'abord.
Alors qu'Oscar, c'est tellement sensuel, c'est tellement féminin, quelque part. Chez Le Corbusier, c'est un peu raide, quoi. C'est un peu c'est le carré de l'architecte, et puis on en sort difficilement. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas si je le ferai, celui que je le ferai peut-être, parce que j'ai trouvé des trucs, mais ce n'est pas de l'arrondi comme Oscar.
Parce que vous avez en commun avec Oscar Niemeyer, justement, ce goût de la courbe,
voilà.
Et des courbes,
oui.
Qu'il savait justement mettre en valeur par tout d'un coup un pigeonnier gigantesque, des tours, hein, donc des lignes droites, verticale et en même temps qu'il faisait correspondre avec des courbes, avec cette coupole inversée, ce dôme.
Absolument, cette coupole inversée, c'est le rêve absolu. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire
Justement, vous évoquiez tout à l'heure les arènes d'Arles. Donc, les arènes, c'est forcément dans un rond, dans un cercle. J'imagine que vous avez à Brasilia, même si c'est très loin, quand on voit certains bâtiments, justement, j'étais étonnée que vous évoquiez les arènes, mais c'est tout à fait...
Oui.
C'est presque ça, même si ce ne sont pas des arènes. Quand on voit le bâtiment qui s'appelle la Cour suprême,
oui.
Il y a des... alors moi, n'étant pas architecte, des arches verticales, mais sous lesquelles on peut passer.
Oui.
Et là, j'imagine, ça a un côté, justement, ça rappelle les arènes anciennes avec des arches complètement différentes. Hein, là.
Oui, oui.
Mais je pense que vous avez dû vraiment vous sentir presque chez vous.
En partie, c'est vrai que j'ai fait venir Oscar Niemeyer à Arles. Mmh. Et ce qu'il avait beaucoup touché, en particulier, c'était le cloître de Saint-Trophime,
oui.
où on avait eu à cette époque-là une exposition d'œuvres de César, donc, qui était là aussi des cours des expansions de César. Donc c'était vraiment très des cours. Et Oscar avait évoqué un voyage fait en Italie où il avait été très frappé par l'architecture italienne. Et je pense que ça, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Tant qu'on n'est pas allé en Italie, on ne peut pas comprendre ce que veut dire l'architecture. Parce que dans certaines villes, je pense à Sienne, par exemple, à la place de Sienne, pourquoi cette espèce d'incurvation qui donne un charme fou à cette place, qui est incomparable ? Le Capitole de Rome, c'est cette construction, cette répartition des immeubles par rapport à cette place, c'est étonnant, quoi. Ça, c'est, je dois dire, et Palladio, enfin là on n'arrêterait pas avec les Italiens. Mais donc Oscar a été très marqué. Alors comme il a eu une très longue vie, il a pu en profiter. Hein. Voilà.
Alors il avait avec lui une photographie de vous qui sont trois nus allongés. Hein, trois nus féminins sur une plage de Camargue qui date de 71. Ce sont trois nus où effectivement les corps se mélangent avec une vague derrière en se confondent quasiment entre paysage et corps. C'était une très grande photo qu'il avait de vous. Là, dans le livre publié chez Azan, il y a également cette photographie dans les mains d'Arabal aux côtés d'Oscar Niemeyer.
Oui.
Un grand moment, ça.
Oui, oui, parce qu'il est allé le décorer de l'Oulipo, enfin,
parce qu'il l'avait.
Et, tout ça.
Voilà.
Et quand il y avait eu un hommage pour Oscar, je crois, pour les 90 ans, on m'avait demandé cette photo pour une exposition et la permission de la faire en grand format. Et Oscar l'a gardée.
Mais gardé
je lui avais donné, parce que je lui avais donné déjà un petit format.
Oui.
C'est vrai qu'il y a eu, pour moi, si vous voulez, le passage à Brasilia a été très important parce que ça a changé mon point de vue. C'est-à-dire que à cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, 62-63, où je suis allé à Brasilia, je faisais des nus essentiellement dans l'eau, dans la mer, sur la plage. Et puis, avec l'animation maritime et cette sensibilité de la plage. Et puis, je vais à Brasilia et je vois notamment cette coupole inversée. Enfin, on ne peut pas ne pas être séduit par la féminité de ça, la sensualité de ça. Et de retour à Arles, j'ai fait des nus vraiment influencés par Oscar. Et alors, on a dit que je l'avais influencé, qu'il m'avait influencé. Il y a eu certainement un dialogue entre nous parce que, en effet, il était fou de ses nus. Et je dois dire que lorsqu'il y a eu, il y a quelques années, l'exposition au Jeu de Pommes, l'exposition qui ne m'avait pas plu, je trouvais qu'elle n'était pas à la hauteur d'Oscar. Je lui ai envoyé les excuses au nom de la France, alors que je ne représentais rien, mais bon, je lui ai envoyé mes excuses personnelles et quatre photos. J'ai joint quatre photos et je lui ai dit, ce sont des photos qui ont été inspirées par Brasilia et je voulais que tu les aies avec toi. Voilà.
Vous pouvez en décrire une ?
Il y en a une qui est devenue d'ailleurs la couverture d'un de mes livres les plus fameux qui s'appelle « Né de la vague » et où on voit vraiment, on ne peut pas ne pas penser à Brasilia, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que c'est fait. Alors, ça a été fait d'une manière accidentelle parce que nous étions sur la plage, il y avait des pêcheurs qui gênaient, je n'arrivais pas à faire les photos que je voulais. Et il y avait un bois mort, un tronc d'arbre rejeté par la mer. Et j'ai fait monter la fille sur le haut de cet arbre. Enfin, ce n'était pas très haut, c'était 2 mètres de hauteur. Mais ça me suffisait pour la photographier d'en bas, en contre-plongée. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé là, mon plaisir de Brasilia.
C'est une magnifique photo. Et d'ailleurs, Eva Monica Turk écrit juste à côté de cette photo que Claire Guenimeyer vive le corps féminin comme un flux cosmique, un substitut de leur désir dans lequel la sensualité prend forme. Ce faisant, il pose un regard apaisé sur la nature et ses courbes détendues, considérées comme des vecteurs culturels stylisés. Bon, là, c'est très, très écrit, mais ça correspond aussi. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a vraiment eu un dialogue, c'est assez amusant, entre deux artistes, ça pourrait être entre deux architectes, mais là, entre photographie et architecture, c'est surprenant de voir comment l'un et l'autre, vous avez Influencer, c'est peut-être pas le terme, vous trouveriez le mot plus juste, mais comment le travail de l'un a nourri celui de l'autre, et tout en partageant un imaginaire assez commun.
D'ailleurs,
assez
c'est allé très loin, puisqu'un jour, alors qu'on déjeunait...
Vous aviez un projet de musée commun.
Voilà, alors qu'on déjeunait à Brasilia, comme à son habitude, Brasilia était faite sur des coins de table. Hein. Il était à déjeuner, on téléphonait, on disait « Docteur Oshkar au téléphone ». Alors il partait, il revenait, il faisait tout écarté, et sur la nappe blanche en papier, il dessinait un truc, et puis il disait « Appelez mon bureau, qu'il vienne le chercher, qu'il le mette au point ». Et je lui dis « Mais tu fais quoi là ?»« Ah ben, on vient de me commander le ministère de la guerre ». Alors bon, j'étais assez soufflé, et là, un jour, il s'est mis à faire le projet d'un musée de la femme pour mes photos. Il m'a dit, alors on voit nettement la grande nue, et on voit les personnages, l'échelle des personnages, on voit qu'il voulait des photos gigantesques, et il voulait surtout la voix des plus grands poètes qui disent même les poèmes sur la femme. Ces poètes sont morts depuis, mais c'était un projet magnifique. Alors, on n'a pas pu le faire. Lui, il voulait l'installer à Brasilia, hein. C'est ce qui était extraordinaire pour moi. Mais il y a eu cette histoire de coup d'État, etc. Donc tout ça s'est englouti. Alors, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, on en a reparlé. Il m'a dit « Ah oui, il faudrait peut-être le faire à São Paulo ». Et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, les choses vont leur cours. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, son petit-fils qui continue son œuvre, il pensera, j'essaierai de lui en parler.
Ou quelqu'un d'autre.
Et maintenant, j'ai un excellent ami qui est l'ambassadeur de France au Brésil, M. Delay, qui était avant à Madrid, et je vais lui rappeler ça.
Quel regard vous posez aujourd'hui, donc des dizaines d'années plus tard, sur ce travail photographique? Pour vous, vous aviez 28 ans.
Oui, c'est 50 ans.
Je n'osais pas le dire.
Ah, oui, c'est 50 ans après. Ça ne semble pas vrai, parce que quand on voit maintenant cette ville qui était une ville, je ne sais plus, qui n'était pas une très grande ville, est devenue une énorme ville. On a rajouté malheureusement beaucoup de constructions qui n'ont rien à voir avec Oscar. Car il faut bien lier les deux, hein, Lucio Costa et Oscar Niemeyer, qui étaient deux grands amis et qui ont vraiment collaboré très fortement. L'urbanisme de Lucio Costa avait une ambition... Comment dire, Brasilia est installée au milieu de rien, puisque c'est le résultat d'un espèce de rêve d'un prêtre qui a dit c'est là qu'il faut construire la capitale du Brésil, et c'est à 2000 km de Rio de Janeiro, ce qui était un problème d'ailleurs pour les députés de l'époque qui ne voulaient pas du tout aller siéger à Brasilia, et qu'on était obligé de sanctionner. On les comprenait, quoi, parce qu'au début, moi je me rappelle quand on y était à l'époque, il y avait qu'un bon restaurant, hein, un restaurant français d'ailleurs, et pour le cinéma, il n'y avait rien, enfin, c'était quand même assez ennuyeux, disons-le, quoi. C'était pas fini. Et bon. Alors maintenant, il paraît qu'il y a des embouteillages, que pour traverser la ville, c'est beaucoup plus long qu'on pourrait l'imaginer. Donc les choses évoluent et c'est comme ça.
Vous n'avez pas eu envie d'y retourner, hein?
Ben, j'aurais eu envie d'y retourner, mais je me demande. Je crois que je préfère rester...
Sur cette Vous Brasilia savez, c'est un inachevée peu... Un peu assez
naissante.
C'est un
peu comme les... Vous savez, quand... Comment vous dire? Quand quelqu'un meurt et que les gens vont voir le... moi, je n'aime pas aller voir. Je garde le souvenir de la vie que j'ai connue. Et là, avec Brasilia, alors, Brasilia n'est pas morte, elle a simplement changé, elle s'est transformée. Et moi, je préfère garder le souvenir de ma Brasilia d'Oscar, parce qu'évidemment, je sillonnais tout Brasilia avec lui. Hein. On marchait ensemble, on mangeait ensemble, on rigolait ensemble, il jouait au ping-pong avec nous, il jouait même de la guitare. Non, c'était une connivence très agréable, donc il n'est plus là en plus. Alors, parce que je suis allé dans sa maison de Rio qu'il a construite, une maison extraordinaire avec cette piscine, moitié dedans, moitié dehors, où le rocher joue un rôle. Il a bâti tout ça. Je crois, il y a même un arbre au milieu de la maison qui sort par le toit. Ça, c'est formidable. Quoi, Et alors, j'ai su depuis, on n'en avait pas trop parlé ensemble. Il avait une passion pour Picasso, mais je ne savais pas, il paraît qu'il avait des tableaux de Picasso. Et ça, il ne me l'a jamais dit. Mais il les a peut-être achetés plus tard, quand il a gagné de l'argent en Europe, quand il a construit un peu partout.
Je vous repose la question sur ce travail sur les formes architecturales, même si vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait le grain de la pierre, le grain de la peau, etc. Est-ce qu'après avoir photographié Brasilia, vous aviez l'air de dire, vous aviez commencé à dire que ça avait changé quelque chose quand même pour vous dans votre travail, dans votre œuvre. Est-ce que vous pourriez expliquer ce changement ou qu'est-ce qu'il a apporté au-delà de la rencontre?
Oui, d'abord, comment expliquer? C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est surtout au niveau des nus que ça m'a fait voir le nu beaucoup plus sculptural que ce que je l'avais vu moi avant. Mais surtout, ça rejoint un peu d'ailleurs l'intérêt que j'ai pour Picasso au niveau de la construction. C'est-à-dire que chez Picasso, vous avez un cadre et si vous regardez bien, rien n'est négligé. Toujours, même les vides, ont leur rôle à jouer. Et là, sur cette fameuse place des Trois Pouvoirs, on était très impressionnés. Parce que alors moi, je l'ai sillonné dans tous les sens. Mais surtout, alors, ce qui m'a beaucoup frappé, un jour, j'ai posé la question à Oscar. Parce que bon, je suis photographe, moi, je fais les photos. Et je lui dis, Oscar, est-ce que quand tu construis, quand tu fais une maquette d'un bâtiment comme ça, est-ce que tu imagines tous les points de vue? Il me dit oui. Je lui dis, c'est pas possible. Parce que nous, les photographes, avec un appareil, on voit des choses, je suis sûr que tu n'as pas vu. Alors, bon, je regrette qu'il n'ait pas pu voir le livre, parce qu'on aurait pu discuter de ça ensemble. Mais c'était ça, mon truc. C'était de surprendre Oscar et de lui dire, je suis sûr que ça, tu n'avais pas pu imaginer que ta colonne ou ton truc, là, ça ferait autre chose. Parce que c'est ça, c'est le grand mot. Tu vois, ce que Picasso m'avait appris, m'avait dit surtout, et il me disait, ce que j'aime, c'est quand ça devient autre. Et avec Oscar, c'est ça. L'architecture devient autre. Elle est utile, elle est fonctionnelle. Elle sert à abriter des gens, à en recevoir, à faire des réceptions. Mais il y a ce quelque chose de plus qui est la poésie et qui est un privilège rare.
Quand l'œuvre échappe à son créateur aussi?
Je le subodore. Je vous répète, les architectes sont très possessifs. Enfin, ils prétendent en effet avoir tout. C'est vrai qu'ils ont des petits appareils qui leur permettent de voir à travers la maquette tous les points de vue. Mais nous, les photographes, on va quand même fouiller dans des coins. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et ça a été mon drame, puisque la première fois que j'y suis allé, il pleuvait, donc je ne pouvais pas travailler. Un devin m'en avait prédit, d'ailleurs. Au moment de partir, il m'avait dit, vous allez dans un pays lointain, ne faites pas de photos sous la pluie. Je lui ai dit, je vais au Brésil. Ben oui, faites pas de photos sous la pluie. Et ben, il pleuvait. Et en effet, le soleil change tout. Et c'est ça qui est important, parce que photographie, c'est écriture avec la lumière. Hein. Voilà l'étymologie. Donc, moi, je suis un homme du soleil, je suis un homme du sud, j'ai besoin du soleil. Cartier-Bresson n'aimait pas le soleil, par exemple. Lui, il aimait mieux faire des photos à l'ombre. C'est un homme du nord, bon, ben, c'est différent. Mais là, à Brasilia, j'étais gâté, quoi, parce que quand le soleil est arrivé, évidemment, ça changeait tout, qu'est-ce que vous voulez faire.
Parmi toutes ces très belles photographies, c'est vraiment... Alors, c'est un livre carré, comme... Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à votre premier éditeur, mais en tout cas, c'est un format esthétique aussi.
Il faut dire que je travaillais avec un appareil 6-6,
voilà.
Un appareil Rolleiflex, l'appareil allemand, le fameux appareil de Bauhaus, que j'avais d'ailleurs...
Qu'on vous avait offert.
Que m'avait offert Marcel Beaurière, qui est un appareil qui venait de Bauhaus. L'année d'avant, j'avais offert une photo à Bruyère qui, en échange, m'avait offert son appareil et m'avait dit « je n'ai plus le droit de m'en servir, il est à vous ». Et donc, j'ai fait la plupart des photos. J'ai ajouté quelques photos 24-36. Je venais de recevoir un appareil Minolta, mais c'est essentiellement des 6-6. Et d'ailleurs, c'était un appareil qui ne redressait pas l'image. C'est-à-dire, il y a parfois des fuites un peu en oblique, mais pas trop quand même. J'ai fait en sorte de ne pas trop déformer les lignes.
Moi, j'aime beaucoup celle-là. C'est ces photos que je pensais en vous entendant parler des arènes.
Il est évident que les arènes m'ont influencé. Je les connaissais très bien. Et à l'intérieur, notamment, parce que quand on y a joué, c'est un souvenir inoubliable, l'intérieur des arènes. C'est un miracle, d'ailleurs, cette construction. Quand on pense que c'est 2000 ans avant nous et qu'il n'y avait pas d'ordinateur, comment est-ce qu'ils ont fait? Puisque tout est de travers, n'est-ce pas? Toutes les arcades, je ne sais pas comment on dit ça en architecture, mais ça s'évase, enfin, il faut le calculer, ça. Et sans machine, sans rien, ils faisaient ça avec un crayon, les types, c'était des génies, quand même, franchement.
Si vous aviez une deuxième vie, je crois que vous, Peut-être troqueriez-vous l'appareil photo pour le compas et l'équerre, ce n'est pas sûr.
Ce n'est pas impossible, mais d'ailleurs.
En tout cas, c'est
je
c'est
vais vous dire
fort,
même mieux, si je vais au fond de ma pensée. J'ai fait un autre livre qui s'appelle « Langage des sables
oui. »
et qui est une soutenance de thèse, d'ailleurs.
Avec une préface de Barthes, enfin pas forcément une préface, mais avec Roland Barthes qui faisait partie de votre jury
et, thèse. Et donc, il y a dans « Langage des sables » des images où on voit des cercles sur le sable, comme ça, qui ont l'air d'être vraiment des épures d'architectes, qu'un architecte avec un compas a cherché quelque chose. Et c'est tout simplement le vent qui fait remuer des petites tiges d'herbe sur le sable. Et comme il n'y a pas de marée en Camargue, ça reste, ça s'inscrit. Ça peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines. Et d'ailleurs, moi, en hiver, je vais tout le temps, le dimanche, en Camargue, faire des photographies tout seul, en cachette. Pas de touristes, pas de moustiques, pas de jeunes femmes nues qui distrairaient mon regard. Je suis là, très ascétique, quoi.
Vous photographiez toujours ?
Je continue à photographier. J'ai fait, il y a 3 semaines, des photographies dont une va être dans l'exposition qui s'ouvre à Arles et qui va durer tout le mois d'avril jusqu'au début mai.
Donc une exposition au Palais de l'Archevêché du 29 mars au 5 mai qui s'appelle « Lucien Clergue, Camargue secrète ».
Voilà. J'avais déjà publié un livre sur ce thème en 73, l'année de la mort de Picasso d'ailleurs, et je continue. C'est un lieu magique, c'est le lieu, c'est là qu'est née ma mère, c'est là que je voudrais que mes cendres soient répandues, c'est un lieu pour moi magique. Voilà.
Lucien Clergue, en tout cas, merci d'être venu nous parler de Brasilia, cet ouvrage publié chez Azan, et signalons que très prochainement, à la Maison de l'Amérique latine, il y aura une table ronde avec François Chalin, Gabriel Boré, Arabal et vous-même. Ça sera le 24 avril à 19h avec signature pour le livre, pour ceux qui voudront l'acheter. C'est à la Maison de l'Amérique latine. Et nous n'avons pas évoqué Arabal, mais ça sera l'occasion pour les gens de vous rencontrer et de vous voir ensemble. Arabal a aussi écrit un poème dédié à Oscar et vous,
voilà.
Qui est publié dans le livre. Je ne l'ai pas cité, je n'en ai pas parlé. C'est un grand poème qui est une sorte d'hommage où vos deux noms sont tout le temps associés, comme une rime, comme une vague éternelle. Voilà. Oscar Niemeyer et Lucien Clergue, visionnaires, reflets et tentations de la lune dans le jacuzzi. Oscar Niemeyer et Lucien Clergue rejoignent, visionnaires, joignent l'arc-en-ciel au flux de l'inspiration à gros bouillons. Oscar Niemeyer et Lucien Clergue, visionnaires, demandent à la nature de s'enfermer dans l'ensemble. Oscar Niemeyer et Lucien Clergue, visionnaires, ondulent sans déterminer le nombre d'autoroutes. Oscar Niemeyer et Lucien Clergue, visionnaires, pressentent la relativité des Édens. Oscar Niemeyer et Lucien Clergue, visionnaires, fixe le sens afin qu'il perdure dans tous les siècles des siècles. Eh bien, alors là, écoutez...
Après ça,
si on vous définit comme des bâtisseurs d'utopie, là, vous avez le grade Arabal, le grade de commandeur esquire, enfin, je ne sais pas quel grade particulier...
Voilà, certainement, oui.
Du collège de pataphysique.
Oui.
Mais voilà, nous vous remercions Lucien Clergue d'être venu évoquer Brasilia pour les auditeurs de Canal Académie.
Merci de votre accueil.